These are the times that try men's souls. In the course of our nation's history, the people of rallied bravely whenever the rights of men have been threatened. Today, a new crisis has arisen. Citizens, hear me out. This could happen to you.
Eh bien, bienvenue sur Déo et Débat sur la radio Béton sur le 93.6. Déo et Débat, c'est tous les samedis de 12h à 13h et les mardis de 18h à 19h. Alors, l'école, une fois de plus, c'est en crise, hein. Les ministres s'enchaînent, les réformes aussi, au pas de charge. Sans concertation, semble-t-il, avec le corps enseignant. Du coup, grève, manif, la chienlit, comme dirait le général. Pour en parler, Déo Débat reçoit Lucie Rouillet, prof d'anglais au collège Honoré de Balzac, à Azel Rideau. Lucie, bonjour.
Bonjour.
Alors, donc, il y a eu des mouvements début février, lié globalement à l'ensemble des réformes du choc des savoirs voulu par celui qui n'était plus ministre de l'Éducation nationale, mais Premier ministre, hein, Gabriel Attal. Alors, vous êtes complètement opposé à l'ensemble des réformes ou il y en a quand même quelques-unes qui trouvent grâce à vos yeux ?
Alors, la manifestation du 1er février et la grève du 1er février, elle était prévue depuis longtemps, en fait. Et simplement, l'ordre du jour a été changé. Autour des vacances de Noël et du mois de janvier, puisque ce qui devait concerner une journée de lutte pour les salaires et les statuts, notamment des AESH, en fait, s'est transformé en lutte contre la réforme annoncée concernant le collège, donc, et la création de groupes de niveau en français et en mathématiques pour les classes de 6e, 5e à la rentrée 2024 et pour les 4e, 3e à la rentrée 2025.
D'accord. Ça ne concerne que, pour l'instant, hein, que français et mathématiques ?
Pour l'instant, français et mathématiques en 6e, 5e.
Donc toi, en tant que prof d'anglais, tu t'en fous finalement ?
Alors, pas du tout, parce que moi, en tant que correspondante syndicale, je m'intéresse à plein de choses. Et surtout, en janvier, c'est le moment clé des établissements scolaires du second degré, puisque sont annoncés les DHG, donc les dotations horaires globales, qui prévoit les moyens, les postes, le nombre de classes et d'élèves prévus pour la rentrée suivante. Donc c'est toujours un moment charnière dans l'année. Et donc là, on était en plein dedans.
D'accord. Et donc, le gouvernement veut mettre en place ces niveaux. D'abord, les syndicats, pas que les syndicats, le corps enseignant et même des spécialistes disent que c'est inefficace.
C'est une très mauvaise idée, c'est très inefficace. On le sait tous, la recherche l'a bien montré par de nombreuses études. Il n'y a pas que le corps enseignant qui s'insurge, il y a également les personnels de direction des établissements, ce qui est quand même assez inédit parce qu'en général, on ne va pas dire que c'est la grande muette, mais ils s'expriment relativement peu publiquement sur ces sujets-là. Et là, c'est le contraire, ils se sont prononcés au niveau syndical, au niveau de la grève du 1er février, et ils soutiennent clairement le mouvement des enseignants.
Parce qu'une partie de la problématique, alors il y a le côté élève, hein, c'est-à-dire est-ce que faire des niveaux... Ça favorise, parce qu'en fait, c'est pour essayer d'augmenter le niveau des élèves.
Voilà, en fait,
c'est ça qui est voulu.
On se base soi-disant sur les enquêtes PISA qui montrent que nos élèves ne sont plus performants. Et donc, l'objectif, c'est de proposer des groupes de niveau, donc faibles, moyens et des groupes performants pour essayer de mieux travailler de façon différenciée avec nos élèves, tout en respectant le même programme.
Et certaines voix disent que, en fait, ce système a plutôt tendance à favoriser l'effort.
Oui, mais sauf qu'en fait, nous, on sait très bien que travailler dans des groupes mixtes et hétérogènes, c'est ça qui crée aussi une bonne atmosphère de travail en classe. Ça favorise aussi la solidarité entre élèves et ça évite l'entre-soi, justement, pour que les élèves ne restent pas entre eux. C'est-à-dire que c'est surtout pour les élèves en difficulté qu'on est le plus inquiet, puisqu'on n'a jamais constaté une évolution positive quand les élèves en difficulté restent uniquement entre eux. Alors que s'ils sont mélangés à d'autres types d'élèves, il y a une émulation qui se fait, et ils ont beaucoup plus de chances de progresser plutôt que de rester dans un groupe qualifié de faible ou de fragile.
D'accord. Et donc les directions des collèges sont impactés parce que l'emploi du temps va être un sacré casse-tête.
Alors, l'emploi du temps va être un sacré casse-tête. Alors, s'il n'y avait que ça, on se dirait que ça pourrait être presque accessoire. Le plus gros problème, c'est par rapport au nombre de postes que ça engage, puisqu'il n'y a aucun moyen supplémentaire qui est distribué au niveau des établissements. Donc, on nous demande de faire autant de projets qu'auparavant, de s'occuper autant des élèves en difficulté sans avoir aucun moyen supplémentaire.
Et comment est-ce qu'on peut splitter l'effectif d'une classe sans multiplier les enseignants.
Voilà, et ben on ne peut pas. Et c'est là aussi où c'est problématique, c'est qu'il va falloir donc aligner en barrette des aligner des emplois du temps de façon identique sur des mêmes créneaux horaires. Et
c'est d'accord, on regrouperait tout l'effort de plusieurs classes.
Alors tous les élèves des deux matières en même temps sur les mêmes créneaux, ce qui fait que ça mobiliserait énormément de professeurs en même temps, et donc en fait plus de professeurs qu'il n'y en a dans chaque établissement. Donc concrètement, ça veut dire que des professeurs vont devoir aller faire des compléments de services dans des établissements. D'autres, là où ça devient ubuesque, vont devoir effectuer des heures supplémentaires tout en demandant à des collègues de faire des compléments de services. Donc c'est une situation inextricable.
Et là, c'est entériné, il y a encore moyen de faire fléchir la bête.
Rien n'est entériné. Alors on est en plein dans les réunions en ce moment, mais... on sait que le Conseil supérieur de l'éducation s'est prononcé contre cette réforme. Nous avons été reçus hier avec une délégation par le DAZEN, donc le directeur académique d'Indre-et-Loire, pour discuter et présenter nos revendications et nos inquiétudes très fortes quant au métier. Donc nous attendons, puisque à ce jour, aucun décret ministériel n'est paru, n'est sorti. Donc ce qui est aussi très gênant, c'est que l'on doit préparer une rentrée dans le flou. On nous demande de préparer des groupes sans qu'aucun texte officiel ne soit encore publié. Donc on est presque dans l'illégalité.
Mais alors, ce qui est étonnant, c'est on a l'impression que au ministère de l'Éducation nationale, chaque nouveau ministre fait une nouvelle révolution qui vient de nulle part, entre guillemets, qui est sans concertation avec le corps enseignant.
Oui.
C'est une bonne impression que...
Oui, c'est exactement ça. Alors c'est vrai qu'on a l'impression que les réformes s'enchaînent. Il n'y a aucune analyse de fait d'une année sur l'autre, puisqu'il faut quand même rappeler qu'on a déjà subi une petite réforme à la rentrée dernière. Donc c'est une réforme qui est en place depuis le mois de septembre, donc on va dire 3 ou 4 mois. Et aucune leçon, aucune analyse n'en est tirée. On annonce déjà une réforme pour la France entière, sans parler d'établissement test, sans parler de mise en place provisoire. C'est pour tout le monde pareil, alors que toutes les réformes jusque-là s'enchaînent sans aucune concertation ni analyse.
Mais comment est-ce qu'on peut expliquer cette stratégie bizarre qui semble à la fois contre-productive, c'est-à-dire pourquoi est-ce que le corps enseignant n'est pas il n'y a pas de concertation avec le corps enseignant?
Alors le ministère va dire que si le corps enseignant a été concerté, puisqu'on a eu le droit de répondre à une enquête il y a quelques mois sur nos conditions de travail. Il se trouve que beaucoup d'enseignants, une grande majorité, a reconnu que gérer l'hétérogénéité des classes était devenu très compliqué. Environ 80% des enseignants l'ont signalé. Mais le ministère l'a traduit en « il faut donc traiter l'hétérogénéité autrement », et c'est-à-dire complètement séparer les élèves les uns des autres. Et c'est ça aussi qui révolte beaucoup d'enseignants en ce moment, c'est que ça touche au cœur de notre métier quand même, où on essaye de s'occuper de chacun et on essaye de faire société autour de nos élèves et leur apprendre à vivre ensemble, et malgré leurs différences scolaires, leurs aptitudes, et essayer de les amener vers un but commun.
C'est quoi la bonne solution ou les bonnes solutions? Diminuer l'effectif des classes?
Alors, pour nous, c'est toujours ce qu'on estime le plus intéressant, ce serait de travailler à effectif réduit. Là, on a eu la publication de l'IPS, donc c'est un indice qui...
C'est quoi l'IPS?
Alors l'IPS est un indice, je crois, de positionnement social, qui détermine en fait le nombre d'élèves par classe. Et selon l'IPS de l'établissement, on va estimer que un établissement peut accueillir, par exemple, 30 élèves par classe. Donc, notre collège actuellement est dans cette IPS-là. Il se trouve aussi, par exemple, que Château-Renaud, qui est quand même la deuxième commune la moins lotie d'Indre-et-Loire, se trouve avec le même IPS. Et donc, le collège de Château-Renaud se retrouve avec le même nombre d'élèves prévus par classe à la rentrée, aux environs de 30. Et on sait tous que travailler à 30, c'est très compliqué, c'est très difficile. Donc pour nous, la solution, effectivement, c'est de travailler avec des effectifs réduits.
Comment ils font les autres pays? Tu as une idée de... Parce qu'on a donc dit qu'il y a eu une enquête PISA qui montrait que les petits Français et Françaises n'étaient pas au top des connaissances, voilà, hein, et qu'il y avait quand même pas mal de pays qui étaient devant nous. Qu'est-ce qu'ils font de mieux que nous? C'est la qualité des enseignants?
Ça dépend des pays. Les chiffres PISA, ils veulent dire des choses, mais en même temps pas forcément grand-chose non plus. L'Allemagne, par exemple, a un système scolaire avec deux sortes d'établissements secondaires, même trois selon les Länder. Donc forcément, ils vont pas présenter les mêmes chiffres que nous en termes de réussite scolaire. L'Angleterre est sensiblement comme la France. Et évidemment, on prend toujours l'exemple des pays nordiques, puisque la Finlande, notamment, la Suède, les Pays-Bas, la Norvège, eux ont des élèves en général très performants en Europe, mais ils travaillent effectivement à effectif réduit par rapport à nous. Donc pour nous, c'est quand même une clé de réussite des élèves.
D'accord. Pour que l'enseignant ait, ou l'enseignante ait plus de temps pour s'occuper des
voilà, des cas individuels, puisqu'on a énormément de, bah, voilà, d'hétérogénéité à gérer en classe avec des profils d'élèves tout à fait différents et de plus en plus différents. On est quand même dans l'école inclusive.
C'est quelque chose qui a changé par rapport à,
oui,
à quand j'étais petit.
Ah oui, ah oui, moi aussi. Moi, ça, je fais ce travail depuis 15 ans et je vois que mon métier a changé depuis 15 ans, bien sûr.
Les élèves ont changé.
Oui, les élèves ont changé, les profils d'élèves ont changé. On reconnaît beaucoup plus les élèves qui vont être en situation de handicap ou qui ont des difficultés scolaires importantes. Donc on met en place beaucoup de choses pour essayer de les soutenir et de les aider au mieux. Et ça nous demande quand même des préparations supplémentaires. Ça nous demande du temps aussi pour les accompagner. Donc forcément, on ne peut plus faire cours magistral comme on peut l'imaginer il y a encore peut-être, je ne sais pas, 30 ans. Ça, c'est plus possible du tout, en tout cas pas du tout en collège.
Alors, dans son fameux choc des savoirs, il n'y avait pas que ça comme mesure. Hein. Il y avait, qu'est-ce que j'ai noté, le redoublement laissé à l'appréciation des enseignants.
Oui, parce que... Alors,
c'est pas une bonne idée, ça?
Le redoublement, c'est une question très compliquée. On l'a abandonné pendant très longtemps parce qu'il y avait un recours un petit peu systématique au redoublement pour les élèves fragiles. On a constaté en fait que c'était peu valable. En fait, ça coûtait cher, pour caricaturer, au ministère, et c'était pas rentable pour les élèves qui ne faisaient pas forcément une meilleure année. En fait, maintenant, le redoublement, c'est autorisé pour les élèves qui ont eu des situations de santé compliquées sur une année scolaire, ou des situations personnelles difficiles et qui ont besoin...
Et qui ont raté une partie de l'année.
Voilà, c'est ça. Et jusque-là, les parents avaient le dernier mot sur le redoublement, qui était ce qu'on appelle le maintien maintenant en classe, le maintien sur une année. Et il se trouve visiblement que le dernier mot reviendrait aux enseignants.
D'accord. C'est bien ça ou c'est pas bien?
J'ai pas d'avis sur la question, je ne sais pas.
Parce qu'en fait, on revient toujours à la même conclusion... Le redoublement, ce qu'il faudrait, c'est que les élèves qui sont en difficulté, on soit capable de les aider.
Oui, et puis qu'ils construisent un projet sur l'année suivante, en fait. Que ce soit une année vraiment de rebond. Et c'est vrai qu'on ne peut pas dire que ce soit une année toujours très intéressante pour certains redoublements. Donc, mais là, à l'heure actuelle, il y a 1% d'élèves qui redoublent en cycle collège. Donc c'est vraiment un chiffre très très petit.
Alors j'ai noté aussi que dans le choc des savoirs, il y a une refonte du programme de la primaire. Bon, ça se... Tu ne dois pas être une spécialiste de ça.
Non, je ne suis pas spécialiste du primaire.
J'ai noté l'application de la méthode de Singapour pour l'enseignement des mathématiques.
Ah oui, les profs des mathématiques, ils sont ravis, puisque c'est souvent eux qu'on attaque.
C'est quoi la méthode de Singapour?
Alors, je ne la connais pas, je ne suis pas professeur de mathématiques. Oui. Alors, visiblement, ça fait ses preuves en Asie. Mais moi, je ne sais pas, j'ai aucun avis sur cette question-là parce que ce n'est pas du tout mon domaine d'expertise. Mais je compatis parce que mes collègues de mathématiques prennent cher. Ils sont toujours responsables de tout au niveau échec scolaire. Échec PISA, c'est eux qui sont toujours responsables.
Et brevet obligatoire pour l'entrée au lycée.
Oui, ce qui nous paraît... Alors, pour ce qui est des demandes d'entrée en seconde générale et technologique, on va dire que très peu d'élèves actuellement n'obtiennent pas le DNB pour aller au lycée.
DNB.
Le diplôme national du brevet. Mais là où c'est plus problématique, c'est pour les élèves qui demandent une orientation seconde professionnelle, qui potentiellement ont peut-être un taux d'échec un petit peu plus élevé que les élèves qui ont une orientation seconde générale. Donc nous, ce qu'on trouve vraiment dommage, c'est qu'un élève qui aurait un projet d'orientation solide, défini, travaillé et choisi, pourrait être empêché d'obtenir son vœu. Et l'objectif de l'école, c'est quand même de préparer une orientation convenable pour chacun et chacune.
On continuera à parler des réformes et de la mauvaise humeur des enseignants après une première pause musicale. Et je vous propose d'écouter Alice Cooper, un vieux de la vieille, avec « School's Out ».
Found new toys.
Voilà, de retour sur les ondes du 93.6 sur la radio Béton, Déo et Débat. On est toujours avec Lucie Rouillet pour parler un petit peu de la crise de l'enseignement, et enfin en tout cas de ce qui se passe au collège. C'est pas fini.
Non, c'est pas fini.
Il y a eu une manif et il y en a d'autres qui sont prévues. Faut se dépêcher. Oui, oui. Faut se dépêcher avant les vacances, c'est ça?
Alors, il y a eu plusieurs mouvements. Il y a eu la grève nationale du 1er février, mais il y a eu un deuxième mouvement le 6 février, donc il y a une semaine. Et là, le prochain mouvement au niveau local, ça aura lieu lundi soir, donc lundi 19 février, à partir de 17h. Donc, les syndicats appellent un rassemblement devant la préfecture d'Indre-et-Loire, puisque se tiendra lundi la CDEN, donc le CDEN, le Conseil départemental de l'éducation nationale. Donc c'est un conseil où se réunissent divers acteurs du monde éducatif, donc des représentants des collectivités, des personnels d'établissement, des fédérations de parents d'élèves. Donc voilà, ils sont censés donner un avis consultatif sur la réforme qui est proposée. Et donc les syndicats proposent un rassemblement à 17h ce lundi.
D'accord, pour essayer de faire infléchir la nouvelle ministre. Puisque vous avez changé de ministre.
On a changé.
Alors, continuons un petit peu à parler du malaise du corps enseignant. Il y a une crise du recrutement chez les enseignants et enseignantes. Alors d'abord, un salaire qui n'est pas...
Mirobolant.
En tout cas, il est dit qu'il est moins important que dans beaucoup d'autres pays.
C'est vrai. Oui, on peut comparer avec d'autres pays européens. Effectivement, on fait partie des catégories les moins reconnues au niveau de l'enseignement en Europe. Ouais, c'est vrai.
Et donc, du coup, il y a vraiment... On manque de postes ou on manque de gens pour mettre sur les postes?
Les deux. Actuellement, il y a quand même une crise de recrutement, en fait, dès les concours. C'est-à-dire que passer le CAPES, passer l'agrégation. En fait, de moins en moins de candidats se portent volontaires. Et ensuite, le nombre...
Pour enseigner au collège, il y a besoin d'avoir le CAPES ou la grève? Non.
Alors, pour être titularisé, oui.
D'accord.
Voilà. À l'heure actuelle, on fait aussi beaucoup appel à des contractuels ou des vacataires à qui on ne demande pas de concours. On demande simplement le niveau master ou le master, donc un bac plus 5. Mais certaines disciplines ont tellement besoin de personnel qu'on recrute au niveau licence, éventuellement moins. Tellement il y a des postes à pourvoir.
Et malgré ça, il y a quand même une crise de la vocation.
Et oui, malgré ça, il y a une crise de la vocation. Mais ce n'est pas étonnant, puisqu'on sait que nos conditions de travail sont quand même de plus en plus difficiles. On a un métier qui est très dévalorisé depuis quelques années.
Parce que c'est quoi les conditions de travail très difficiles? C'est le fait d'avoir plein de vacances
Alors, c'est pas les vacances, évidemment, ça, on ne va pas s'en plaindre. C'est plutôt le risque d'abord quand on est jeune enseignant des mutations, c'est-à-dire qu'on a une mutation nationale, donc beaucoup hésitent à passer ces concours, puisque quand on est originaire d'une région attractive, si on prend l'Aquitaine, la Bretagne, la Côte d'Azur, etc., on a toutes les chances d'être envoyé sur des académies qu'on appelle déficitaires, donc l'Académie d'Orléans-Tours fait partie des académies déficitaires, donc des académies en manque d'enseignants. Ça peut être aussi les académies du nord de la France ou de la région parisienne. Donc, rien que pour cette raison...
Le 93 que 75.
C'est ça, voilà. Donc, l'Académie de Créteil, qui est souvent un des premiers postes pour de nombreux jeunes enseignants. Et voilà, donc ça, il y a quand même déjà ce risque de mutation. Ensuite, le fait que notre métier soit dévalorisé de façon relativement systématique dans les médias. Au niveau des parents, on a aussi de plus en plus de relations compliquées avec certaines familles. Donc forcément, c'est plus un métier qui fait rêver, c'est plus un métier attractif.
Ok. On parle aussi d'une perte de sens des métiers, c'est-à-dire que, ça fait plus rêver d'être prof, quoi. C'est ça ?
Non, c'est ça. Ça fait plus rêver pour beaucoup de jeunes. Alors après, il y a quand même de nombreux profs qui aiment encore beaucoup leur métier. Ça, c'est certain. Je pense que globalement, on est quand même tous contents d'être devant nos élèves. Mais il y a un ras-le-bol général. Et ce qu'on a constaté, là, notamment au moment de la grève du 1er février, c'est qu'il y a beaucoup de collègues qui n'avaient jamais fait grève de leur carrière, ou en tout cas pas depuis des années, pour certains des dizaines d'années, et qui, là, se sont vraiment mis en grève spontanément parce que pour eux, c'était un petit peu la goutte d'eau. En fait, c'est trop. Il y a quelques années, on a eu la réforme du lycée, quand même, qui est passée de façon très contestable, puisque... Les personnels enseignants s'étaient largement prononcés contre cette réforme. Elle est passée au forceps, cette réforme. Elle a fait beaucoup de mal aux collègues de lycée. Et là, on a encore une réforme qui nous tombe dessus, en quelque sorte, et on ne nous demande pas notre avis. Et quand on émet notre avis, visiblement, on n'est pas écouté. Alors, hier soir, on a été entendus, On sait que nos revendications vont être transmises. Maintenant, qu'est-ce que ça changera au final? On ne sait pas.
Et donc, il y avait aussi le problème de la précarité de certains, alors, non pas du corps enseignant, mais de ceux qui sont censés aider les enseignants et enseignantes. Hein, donc, c'est les AESH et c'est les ça. AED, c'est ça?
Donc, les AESH.
Tu peux nous expliquer un petit peu pour ceux qui ont quitté l'école et les collèges il y a longtemps, c'est quoi ces acronymes?
Alors, les AESH, ce sont les accompagnants d'élèves en situation de handicap. Donc, ce sont des personnels qui sont chargés d'accompagner tous les élèves qui peuvent souffrir d'handicaps divers. Hein. Ça peut être handicap physique, handicap éventuellement mental. Mais ce sont surtout des gens qui sont au quotidien dans les classes pour les aider à s'organiser, prendre les cours, organiser le sac, etc. Ça peut être aussi accompagner à la cantine, accompagner un cours de sport. C'est vraiment un accompagnement multifacette. Donc ça, ce sont des personnels qui sont précieux pour nous parce que effectivement, quand on a une classe avec 30 élèves, il est difficile pour nous de consacrer tout notre temps à un élève exclusivement, c'est même impossible. Donc ces personnels AESH sont vraiment aux côtés de ces élèves toute la journée. Alors ce qui est difficile pour eux, c'est qu'ils sont très mal payés, ils ont des contrats précaires et ils ne peuvent pas accompagner leurs élèves sur leur semaine entière. Ils sont obligés de se diviser et de répartir leur emploi du temps pour s'occuper de différents élèves, ce qui est très compliqué, puisque selon la matière, selon l'horaire de la journée, un élève en situation de handicap peut se retrouver sans accompagnement personnalisé. Donc c'est au professeur de tout gérer en même temps.
Ce sont des étudiants et étudiantes qui font ça ou
non, pas forcément.
C'est un vrai taf.
Alors ça peut être un vrai métier, justement, c'est un petit peu une des revendications au niveau statut. On a de tout, des étudiants, des jeunes, des gens en reconversion, des moins jeunes. Il y a vraiment toutes les situations possibles et leur problème, voilà, c'est ce statut qui est très précaire et le fait que le ministre propose qu'on combine un statut AED-AESH. Alors les AED, ce sont les assistants d'éducation qui étaient les anciens surveillants, en fait. Et donc on propose aux AESH de combler, entre guillemets, leur emploi du temps pour remplir des tâches qui sont normalement...
De surveillance.
Voilà, de la surveillance, de la cour, de la cantine, des permanences. Des tâches éventuellement administratives, des animations éventuellement périscolaires, alors que ça fait partie du travail de la vie scolaire qui, elle-même, travaille à flux tendu en permanence.
On parle aussi d'inclusion sans moyens, c'est-à-dire ça fait partie un petit peu ça aussi, c'est-à-dire que le ministère prend en compte des cas particuliers d'élèves, demande aux établissements de les régler, mais sans filet de postes. Vous avez de plus en plus de missions à horaire constant, quoi. C'est ça,
exactement. Ouais. On est pied plancher et on nous demande. Donc ça fait partie de l'école inclusive, hein, ce qui est une très belle idée, mais effectivement sans moyens supplémentaires. Et donc les AESH qui sont là justement pour accompagner ces élèves, c'est pour ça qu'elles sont très importantes. Je dis elles parce que c'est en majorité des femmes.
Mais qui vient défendre ces décisions politiques auprès des collèges? C'est juste un décret qui tombe ou alors est-ce que quelqu'un du rectorat expliquer la réforme?
Non, personne. Non, ce sont des décrets qui tombent. Et d'ailleurs, la preuve, là, ce que je disais tout à l'heure, le décret concernant la réforme et la création des groupes de niveau n'est même pas encore sorti. Donc, ce sont toujours des décrets qui arrivent par voie ministérielle, mais sans aucune concertation ni consultation des enseignants sur place.
D'accord. Et ça veut dire qu'il y a régulièrement des réunions de la direction des collèges avec l'ensemble du corps enseignant pour voir comment est-ce qu'on applique telle ou telle réforme ou là aussi c'est tout le monde applique sans concertation? Comment?
Alors les syndicats font quand même un gros travail à ce niveau-là, donc ils demandent régulièrement des réunions, des entretiens avec la direction académique justement pour discuter de tout cela. Et après, nous en établissement, on a aussi un petit peu de temps pour débattre de ces choses-là. Et en ce moment, le calendrier est très très chargé puisque on a un calendrier en fait avec des dates prédéfinies. Donc ça demande beaucoup de temps.
Mais vous n'avez pas le droit de dire non.
On se demande comment on peut agir, on essaye de... Pour l'instant, on a dit non. On dit non. Maintenant, on sait que les enseignants sont relativement peu écoutés. Les parents d'élèves se mobilisent quand même pour nous soutenir. Donc eux, on sait que les parents sont... ça peut être un bon soutien pour nous. Et en général, le rectorat prête beaucoup plus attention à la parole des parents d'élèves que celle des enseignants. Donc quand les parents d'élèves nous soutiennent, c'est toujours intéressant. Les chefs d'établissement se sont aussi prononcés, donc on espère que leur point de vue sera pris en compte. Et voilà, ça c'est ce qu'on attend là dans les semaines à venir.
On a parlé aussi, c'était à la rentrée, de la mise en place d'uniformes à l'école. C'est quelque chose qui... t'as un avis sur là-dessus ou
Moi, je suis prof d'anglais, donc je ne sais pas si j'ai un avis objectif. Après, l'uniforme, ce ne sera pas quelque chose de tenté de façon nationale. Ce sera des établissements plus ou moins volontaires. Je crois qu'on n'est pas concerné spécialement dans l'Indre-et-Loire. Ce que nous, on trouve surtout dommage par rapport à l'uniforme, c'est que ça a un coût, visiblement, et que ce coût, on aimerait bien le voir ailleurs, en fait, que dans la mise en place d'un uniforme. Nous, on préférait que l'argent soit plutôt injecté dans les postes, les créations de postes, et le maintien des collègues qui risquent de perdre des postes ou qui vont être en mesure de carte scolaire à la rentrée prochaine. Ça nous paraît plutôt prioritaire.
Depuis la première élection de notre président Macron, les ministres de l'Éducation nationale se sont relayés, remplacés, Blanquer, Papendiaï, Attal, le court épisode de Oudéa Castéra. Là maintenant, c'est donc une nouvelle ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet. T'as un avis sur cette ministre ou
Alors, elle est de la maison, entre guillemets, c'est une ancienne rectrice qui a démissionné à une époque.
Depuis quand les rectrices sont les amies des enseignants?
En tout cas, elle sait un petit peu plus de quoi elle parle. C'est vrai qu'on a été quand même très vexés d'apprendre que notre ministère était relégué au ministère aussi des sports et des Jeux Olympiques. C'était un petit peu vexant pour nous. Donc là, on sait qu'on a quelqu'un quand même qui sait de quoi elle parle. Mais par contre...
Et qui va s'y consacrer à 100%.
Voilà.
Qui n'a pas ses enfants à l'école privée?
Non, ses enfants ont fait leur scolarisation dans le public, visiblement.
Parce que c'était quand même spécialement un cas d'école.
Voilà, c'était un petit peu la provocation de trop. Oui. Disons que Attal avait déjà eu un parcours scolaire dans le privé. Papendiaï, ses enfants étaient aussi dans le privé. Ça commençait à faire beaucoup, oui, pour les profs du public, oui.
La guerre école privée, école publique est toujours là?
Non, on n'est pas dans une guéguerre école privée.
Il y a eu une époque, dans
les années 80, effectivement. Oui, voilà. Là, on essaie de réfléchir au-delà de ça. Évidemment, nous, on est là pour défendre l'école publique en priorité. Mais visiblement, l'école privée pourrait avoir un petit peu les mêmes questionnements que nous. Moi, j'ai d'ailleurs des collègues qui sont dans le privé, qui vivent pas très bien non plus cette réforme et qui aimeraient bien...
Parce qu'elle s'applique aussi au privé, du coup.
Et en tout cas, pour les établissements sous contrat, oui.
C'est-à-dire la plupart des...
La plupart des établissements privés.
Est-ce qu'il y a un ou une ministre qui a trouvé grâce à tes yeux tout au long de tes 15 ans de carrière?
Moi, je suis un peu trop jeune pour ça. Donc, on va dire que moi, j'ai plutôt commencé sous Sarkozy. Donc,
C'était déjà trop tard.
Voilà. C'était déjà pas très réjouissant. Le quinquennat de Hollande en 2012 était quand même plutôt prometteur. On a eu quand même des déceptions aussi avec la réforme de 2016. Mais là, c'est vrai que la réforme du lycée sous Macron, puis cette énième réforme collège, ça fait beaucoup.
Est-ce qu'il faut vraiment réformer l'école ou est-ce qu'il ne faut pas la réformer?
Difficile à dire. Il y a des choses, on sait, qui doivent évoluer. La réformer, je ne sais pas. En tout cas, il faudrait faire évoluer l'école avec les partenaires et les personnels de l'école plutôt que sans leur demander leur avis et imposer des décrets simplement par voie ministérielle.
Parce que c'est quand même un drôle de métier, entre guillemets, ou une drôle de profession où les enseignants sont à la fois seuls maîtres à bord après Dieu, c'est-à-dire qu'ils sont pas très surveillés.
Attention, l'école publique, on parle pas de Dieu, on est laïque. Oui.
Hein. mais ce que je voulais dire, c'est qu'en tout cas, ils ont pas un patron au sens qu'on peut trouver dans une entreprise, mais ils ne participent à aucune décision concernant leur travail.
Notre pouvoir décisionnaire, effectivement, est très très limité puisqu'on est consulté. On peut faire partie des instances administratives d'un établissement, les conseils d'administration. On peut participer aux instances syndicales, mais c'est vrai qu'on n'a aucun pouvoir décisionnaire. Donc on est là pour fonctionner, comme on essaie de nous le rappeler régulièrement.
Dans les autres pays, tu sais si c'est le même genre d'organisation ou c'est vraiment spécifique à la France, cette organisation?
Alors, je crois que l'Italie fonctionne un petit peu comme nous. L'Allemagne, les enseignants ont aussi un statut de fonctionnaire d'État. Mais le système est quand même un peu différent puisqu'ils ont une autonomie dans les Länder. Donc, ça marche pas tout à fait pareil. Après, je suis pas spécialiste en éducation européenne. Je vais pas me prononcer trop vite là-dessus.
Et donc, ces réformes sans concertation, parce que c'est quand même ça le nœud du problème. Ça vient du fait de quoi? C'est pas des lobbies, c'est en fait c'est les rectorats qui font mal remonter la formation, au ministère ils sont pas conscients des difficultés que vous avez, ou ils s'en foutent?
Ils sont bien conscients, mais par contre, c'est toujours ce qu'on invoque souvent, ce sont les économies, et surtout là, ce qu'on redoute, c'est l'effet d'annonce politique. En fait, on a l'impression que cette réforme, elle a un côté politique où il faut rassurer les gens, il faut leur dire que on va s'occuper de l'école, qu'on va faire travailler les élèves selon leur niveau, et on s'occupe pas des problématiques beaucoup plus larges que ça, beaucoup plus profonde que ça sur l'école. On a été quand même très très chahuté ces dernières années. Il y a eu beaucoup de choses difficiles pour nous à absorber. Donc voilà, des violences contre des collègues, des violences quand même très graves. Hein. Je vais rappeler quand même Dominique Bernard, Samuel Paty, ainsi que notre collègue d'Espagnol qui a été assassiné l'an dernier. Donc on est quand même un métier chahuté très régulièrement et qui doit toujours rebondir, et ça devient difficile pour nous.
Très bien. Donc merci Lucie. On rappelle donc si on veut soutenir et s'intéresser au mouvement du corps enseignant et des parents d'élèves d'ailleurs. Hein, donc,
tout à fait.
La prochaine date, c'est donc
lundi 19 à 17h devant la préfecture de Tours.
Eh bien, merci beaucoup.
Merci à vous.
These are the times that try men's souls. In the course of our nation's history, the people of rallied bravely whenever the rights of men have been threatened. Today, a new crisis has arisen. Citizens, hear me out. This could happen to you.